Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. François Fillon mis en examen. La justice a donc décidé de le poursuivre, notamment pour détournement de fonds publics. Le candidat de la droite clame son innocence et poursuit sa campagne en signant un accord avec les centristes de l'UDI. On fait le point avec Delphine Gauthier dans un instant. La justice qui enquête aussi sur une soirée à Las Vegas organisée au profit d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Le candidat d'En Marche n'est pas directement visé par cette procédure. Les explications de Sarah Guibaudeau. On vote demain aux Pays-Bas. Les libéraux du Premier ministre Mark Rutte sont en tête des derniers sondages. Mais les populistes anti-islam de Geert Wilders pourraient faire une nouvelle percée. On en parle avec notre invité Gilles Ivaldi, chercheur au CNRS, spécialiste de l'extrême droite. Lui-même ne se faisait guère d'illusions sur son sort judiciaire. C'est désormais chose faite. François Fillon a été mis en examen aujourd'hui dans l'enquête sur les emplois fictifs présumés concernant sa famille. La liste des griefs est longue. Détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et enfin manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le candidat de la droite conteste l'ensemble des accusations et il l'a fait savoir de manière quelque peu théâtrale au juge d'instruction Delphine Gauthier.
François Fillon a donc choisi de ne pas répondre aux questions des trois magistrats instructeurs ce matin, mais de lire une déclaration comme la loi lui permet. Le Figaro l'a reproduit in extenso. « Le respect dû à l'autorité judiciaire s'impose à chacun d'entre nous », écrit François Fillon, qui réaffirme « La réalité du travail de mon épouse est indéniable ». Puis son ton se durcit à la fin de cette déclaration. « Vous avez décidé de me convoquer de façon précipitée », lance-t-il au juge. « J'attends d'être traité comme tous les citoyens », poursuit François Fillon, sans précipitation et avec le seul souci que la justice soit rendue en toute impartialité. Mais les juges, eux, ont estimé qu'il y avait suffisamment d'indices graves et concordants. Ils l'ont donc mis en examen. Ils vont maintenant poursuivre leur instruction. Pénélope Fillon est convoquée normalement le 28 mars au pôle financier. Pas de date connue encore pour les deux enfants du couple soupçonnés d'emploi fictif. Les magistrats voudront sans doute aussi confronter les différents protagonistes de cette affaire inédite sous la Ve République.
François Fillon reste candidat, lui qui avait déclaré fin janvier sur TF1 que seule une mise en examen pourrait l'amener à renoncer à l'Élysée. Et pour bien montrer que la campagne continue, il a signé ce soir un accord d'alliance avec le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Accord destiné à jeter les bases, je cite, d'une vraie majorité parlementaire pour les législatives de juin prochain. François Fillon pourra toujours se consoler en voyant qu'Emmanuel Macron n'est plus épargné par les affaires. C'est une information France Inter. Le parquet de Paris ouvre une enquête sur une soirée à Las Vegas en janvier 2016. Soirée organisée pour le compte de celui qui était alors ministre de l'économie. Las Vegas accueillait le Consumer Electronics Show, le plus important salon mondial de l'électronique grand public. Dans cette affaire, Sarah Guibaudeau, la justice ne s'intéresse pas à Emmanuel Macron en tant que tel, mais à ceux qui ont monté cette soirée.
Cette enquête fait suite à un signalement de l'Inspection Générale des Finances. L'IGF a tiqué sur le coût, 380 000 euros, et comme l'avait révélé le Canard Enchaîné, sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres. En janvier 2016, en marge du grand rendez-vous annuel de l'innovation technologique, Emmanuel Macron souhaite donner un relief particulier à la French Tech Night, dont il sera la vedette devant quelques 500 personnalités. Les délais sont courts, une dizaine de jours, les hôtels hors de prix, mais l'agence publique Business France s'exécute et confie la prestation à l'agence de publicité Havas. Il n'y a pas de lien entre la requête du ministre et les manquements constatés, réplique-t-on du côté d'Emmanuel Macron. Il est vrai qu'à ce stade, l'ancien ministre de l'économie n'est pas directement visé, précise une source judiciaire. Ce sont d'abord Business France et Havas qui devront s'expliquer. Par ailleurs, Business France a tenu à souligner qu'elle avait déjà l'habitude de travailler avec Havas. Il n'y aurait donc pas de lien avec la présence au sein du cabinet d'Emmanuel Macron d'un ancien salarié d'Havas.
Guibaudeau, Jean-Luc Mélenchon sera bien candidat à la présidentielle le 23 avril prochain. Le candidat de la France insoumise a officiellement franchi aujourd'hui le cap des 500 parrainages d'élus nécessaires à sa candidature. Il en a 666 selon le dernier pointage du Conseil constitutionnel. Deux autres candidats semblent en mesure d'atteindre cette barre fatidique des 500 signatures. Jacques Cheminade, crédité aujourd'hui de 469 parrainages, et Jean Lassalle qui en a 453. Ce sera dur pour Philippe Poutou, 357 signatures aujourd'hui. Il reste 3 jours aux candidats du NPA pour décrocher les 143 parrainages manquants. L'actualité à l'étranger sera dominée demain par les élections législatives aux Pays-Bas. Les libéraux du Premier ministre Mark Rutte sont en tête des sondages, mais avec un petit score d'environ 17%. En fait, aucun parti néerlandais ne franchit la barre des 20% selon les enquêtes d'opinion. À l'étranger, de nombreux gouvernements redoutent une percée populiste avec le PVV de Geert Wilders, un parti résolument hostile à l'islam, au point de proposer l'interdiction du Coran et la fermeture des mosquées. La communauté musulmane est inquiète. Franck Mathevon a pu le constater à Almere, près d'Amsterdam.
Almere est une ville nouvelle. On y trouve l'une des populations les plus métissées des Pays-Bas. De nombreux Marocains se retrouvent près de la mosquée Abou Bakr, dressée au milieu d'un quartier d'immeubles bas, de briques claires. À Almere, l'extrême droite a terminé en tête des dernières municipales. Devant la mosquée, Geert Wilders inspire ce type de commentaire.
Wilders, il sait rien, il n'est pas apte de diriger ce pays. Il n'a pas la capacité de diriger ce pays. Il n'a pas quelque chose d'intéressant pour nous, pour tout le monde.
Les musulmans d'Almere ne comprennent pas que le discours anti-islam de Wilders puisse séduire autant d'habitants de la ville. Dans son programme, dit Ahmed, il ne parle que des musulmans. Moins de Marocains, moins de Marocains. Bien sûr que ça fait mal. À moi et à mes enfants, ça fait 40 ans que je vis ici. Alors Ahmed a un message pour Wilders. Va faire autre chose. Laisse les musulmans tranquilles. Comme beaucoup de ses amis, Ahmed votera Denk, un petit parti qui se présente comme le parti des immigrés et que déteste Geert Wilders.
Franck Mathevon, envoyé spécial de Radio France aux Pays-Bas. Invité de ce journal, Gilles Ivaldi, chercheur au CNRS, spécialiste du populisme et de l'extrême droite. Bonsoir.
Bonsoir.
Gilles Ivaldi, Geert Wilders devrait faire un score à 2 chiffres demain, mais en fait, il n'a pratiquement aucune chance de gouverner.
Non, et pour 2 raisons, parce que les Pays-Bas, comme vous le savez, c'est un système politique qui est très fragmenté et qui donc repose sur une coalition. Or, aujourd'hui, tous les partis, sans exception, ont refusé de faire alliance avec Geert Wilders. Donc, pour lui, le seul vrai enjeu de l'élection, c'est d'arriver en tête et de se poser une nouvelle fois, j'allais dire, en victime du système. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu de pouvoir pour ce qui le concerne.
Alors, son parti, le PVV, le Parti de la Liberté, est un authentique parti d'extrême droite, selon vos critères ?
Alors d'abord, le PVV n'est pas un parti. C'est un mouvement un peu étrange, puisque c'est un mouvement association, en fait, dont Wilders est le seul membre. Donc il n'y a pas vraiment une organisation comme on la connaît dans les autres partis et dans les partis en France. Ça n'est pas un parti d'extrême droite, car Wilders vient de la droite libérale. Il vient en fait du parti de Mark Rutte, le Premier ministre actuel, et il s'est radicalisé sur des positions qui sont aujourd'hui effectivement celles de Marine Le Pen et d'autres partis européens. Mais il ne vient pas de l'extrême droite historiquement, il vient plutôt de la droite libérale et il s'est radicalisé.
Et son organisation n'a pas d'élus ?
Alors il a très peu d'élus, il a quelques élus au Parlement, quelques élus européens et au Sénat, mais il n'a pratiquement pas de représentants dans les élections locales. C'est vraiment une organisation qui est totalement centrée sur la personnalité de Geert Wilders, et qui n'existe, je ne dirais, que par, pour et à travers lui.
Alors, Gilles Ivaldi, il y a une particularité chez Geert Wilders, c'est le rejet total de l'islam, avec la volonté d'interdire le Coran. Est-ce que ce programme n'expose pas Geert Wilders à des poursuites judiciaires ?
C'est le cas, il a été poursuivi plusieurs fois. Une première fois, il y a quelques années, parce qu'il avait comparé le Coran à Mein Kampf, donc il avait été poursuivi pour cela. Il a été poursuivi plus récemment pour des propos qu'il a tenus vis-à-vis des immigrés marocains. Plus globalement, Wilders est vraiment sur une logique de très radicale. Aujourd'hui, il veut vraiment bousculer les tabous dans le jeu politique néerlandais. Et en fait, son discours reprend le triptyque qui est un petit peu celui de tous ces populismes de droite xénophobes en Europe, à savoir immigration, islam et Europe. Et sur ces 3 enjeux, il a des positions extrêmement radicales, extrêmement fortes.
Sauf qu'il n'y a pas d'autres populistes européens pour réclamer par exemple l'interdiction du Coran. Enfin, même Marine Le Pen ne propose pas une solution aussi radicale.
Oui, et c'est bien ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a 2 trajectoires totalement différentes. Marine Le Pen en France essaye de trouver un équilibre entre une position radicale sur l'Union européenne, sur l'immigration, y compris sur l'islam, mais qu'elle tente d'atténuer, de normaliser, de crédibiliser par ailleurs avec cette fameuse dédiabolisation. Avec Geert Wilders, on est sur une logique totalement différente, encore une fois parce qu'il n'a aucun moyen d'arriver au pouvoir, il le sait. Donc pour lui, aujourd'hui, il s'agit de faire fructifier son potentiel radical et de, j'allais dire, de taper un peu fort sur des enjeux qui sont devenus extrêmement, extrêmement importants et très sensibles dans le cadre des Pays-Bas.
Avec quel objectif à terme politiquement, puisqu'il n'y a pratiquement aucune chance pour lui d'accéder au pouvoir ?
Pour Geert Wilders, je pense que la stratégie aujourd'hui, c'est de maximiser son potentiel de voix. Pour l'instant, il est totalement rejeté par les autres partis. Il est derrière ce fameux cordon sanitaire, donc il n'a pas vraiment de possibilité de s'allier. Donc maximiser les voix, peser, et puis n'oublions pas que ces partis, même lorsqu'ils sont rejetés en dehors, à la marge en quelque sorte du système politique, pèsent sur les autres partis. Et si on regarde le cas néerlandais, il est clair que la politique d'immigration qui a été conduite par le gouvernement de Mark Rutte est devenue beaucoup plus restrictive, et qu'elle est devenue plus restrictive parce que Wilders a fait peser constamment le poids de son parti, de son idéologie. Donc ces partis peuvent aussi chercher à maximiser les voix pour exercer une influence de l'extérieur sans nécessairement être au gouvernement. Et c'est là aussi leur force, et on pourrait citer évidemment le cas du FN en France, qui a longtemps exercé, qui continue d'exercer cette pression sans jamais avoir été au pouvoir national.
C'est donc sous l'influence de Geert Wilders que les autres partis néerlandais ont adopté des lignes très dures sur l'immigration ?
Je dirais que c'est en partie sous son influence. On sait que dans de nombreux pays où il n'y a pas de mouvement populiste, de toute façon, les politiques d'immigration ont plutôt tendu généralement en Europe vers plus de restrictions. Donc ça n'est pas uniquement du fait de la présence de Wilders, mais il est bien évident que sa présence et sa politisation, sa problématisation accrue, constante, persistante des enjeux d'immigration et notamment des enjeux relatifs à l'islam, tout cela a pesé bien évidemment sur l'agenda politique et sur les choix de politiques publiques qui ont été faites par les gouvernements successifs.
Et c'est aussi sous l'influence de Geert Wilders que le gouvernement néerlandais a interdit les meetings des ministres turcs, qui a provoqué une crise avec Ankara.
Écoutez, je n'en sais rien, pour être très honnête. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cette décision, mais ce que je sais, c'est que ça crée effectivement des tensions très fortes dans un contexte qui est déjà extrêmement sensible. La question de l'islam et des réfugiés est devenue vraiment une question particulièrement sensible aux Pays-Bas. Donc cette crise turque vient sans doute ajouter de la tension à la tension, et ça n'est jamais très souhaitable dans un contexte électoral.
Gilles Ivaldi, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'était le 15 mars 2011. Le conflit syrien débuté par des manifestations contre le régime Assad. Rassemblement réprimé dans le sang avant que le pays ne bascule dans la guerre civile. 6 ans plus tard, le bilan est terrifiant. Plus de 320 000 morts et 60% de la population syrienne déplacée. Le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme vient de comparer la Syrie à une vaste salle de torture. Éric Biegala, ces accusations visent surtout le régime.
Oui, dans son adresse au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi, le haut commissaire Zeid Raad al-Hussein n'a pas spécifiquement accusé le régime de Bachar al-Assad. Il a appelé les belligérants, tous les belligérants, à cesser de pratiquer la torture et à libérer les détenus, ou au moins à fournir des informations essentielles à leurs familles. Mais il est clair que l'essentiel des internements et des tortures pratiquées en Syrie sont encore largement le fait du régime. Selon l'ONG Violation Documentation Center, il y aurait plus de 66 000 personnes détenues dans les geôles syriennes, en très grande majorité celles de Bachar. Une autre ONG, le Réseau syrien des droits de l'homme, donne le chiffre de 92 000 détenus. Quant aux tortures, elles sont sinon systématiques, du moins très très fréquentes, et racontées par ceux-là même des détenus qui ont été relâchés. Il y en a. Le rapport César, du nom du pseudonyme d'un photographe militaire du régime chargé de documenter par l'image tous les décès dans les prisons et qui avait fait défection en 2013, est à ce titre éloquent. Il contient les images de plus de 10 000 corps torturés à mort dans les prisons de Damas. Et ce, pour les seules 2 premières années de la guerre. Ce mardi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a également eu communication du rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie sur les 7 derniers mois. Un rapport qui pointe notamment du doigt les crimes de guerre commis par le régime. Ce sont bien les avions de Damas qui ont bombardé à Wadi Barada la principale source d'eau potable alimentant la capitale syrienne en décembre dernier, coupant tout approvisionnement pendant des semaines. Ce sont bien également des avions syriens qui ont bombardé systématiquement un groupe scolaire près d'Idlib en octobre, une école près de laquelle ne se trouvait aucun checkpoint et pas l'ombre d'une force rebelle. Et ce sont ces mêmes avions avions syriens qui sont revenus à l'attaque visant les secours arrivés sur place. Il y avait eu à l'époque 36 tués, dont 21 enfants.
Éric Biegala, merci. À Mossoul, l'armée irakienne progresse dans sa reconquête de l'ouest de la ville occupée par l'État islamique. Les soldats de Bagdad ont repris aujourd'hui la gare de Mossoul. Les djihadistes sont désormais encerclés dans leur dernier bastion. Un mot de la météo demain, temps gris et nuageux dans le nord, ensoleillé au sud. Les températures maximales seront très douces, 12 à 18 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.